au premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pops ont commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. Tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner.
Salut à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Donc comme la semaine dernière, c'est une émission un peu spéciale parce qu'elle est enregistrée le 24 décembre, parce que la radio est fermée une dizaine de jours. Donc déjà peut-être pour commencer l'émission, pour dire dans cette émission, vous allez pouvoir écouter la voix de Pierrot, de Elsa, de Serge, de Arthur qui est avec moi là, et de moi, Alex, donc, qui est en train de vous parler. Pour rappel aussi, pour nous contacter, c'est... Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, l'envolée-fpp. Pour nous appeler toute la semaine, c'est au 07 52 40 22 48. Je répète, 07 52 40 22 48. On est aussi joignable sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, WhatsApp, Signal ou Telegram. Et donc, c'est une émission un peu particulière parce qu'en plus d'être enregistrée, elle est diffusée le 1er janvier 2020, T1. Et donc, comme on le disait la semaine dernière, on sait que la fin d'année et le début d'année, c'est encore plus dur en prison en temps normal, que c'est encore plus dur en ce moment avec la période de crise sanitaire, comme ils appellent ça, et avec toutes les libertés, tous les peu d'espace qu'on s'est fait rodka ces derniers temps. On sait que l'année 2021 commence pas très 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 bien. Et donc, ça nous semble un peu compliqué de vous souhaiter une bonne année. On va vous souhaiter, comme le disait Olivia Stanton il y a quelques années, on va vous souhaiter une année la moins merdique possible, en espérant quand même qu'il y ait des trucs cool qui se passent, des vices de forme, des gens qui arrivent à se casser, des gens qui sont libérés, et qu'il y ait le moins de monde possible qui se fasse stopper cette année. Et donc voilà. On va juste pour rappel aussi, dans l'émission de la semaine dernière et dans l'émission de la semaine d'avant, on avait diffusé des extraits qui ont été enregistrés par des radios de copains copines qui luttent aussi contre les prisons. Je vous redonne vite fait la liste pour celles et ceux qui auraient des proches à l'intérieur dans ces régions-là. Il y a Casse-Muraille qui est à Nantes et qui est diffusé tous les dimanches midi sur Jet FM. Il y a Parloir Libre qui est tous les samedis de 19h à 21h et le jeudi de 20h30 à 22h sur Radio Galère à Marseille. Et enfin, il y a La Petite Cuillère sur Radio Canu et Radio Duo, tout le premier et le troisième jeudi de chaque mois de 20h à 21h. Donc faut pas hésiter à aller écouter, à diffuser et à relayer si vous avez des proches ou des gens que vous connaissez dans les prisons qui sont concernés. Aujourd'hui, on a une grosse émission, donc je vais laisser Arthur présenter un peu le fil.
Ouais. Salut tout le monde, du coup dans l'émission d'aujourd'hui il va y avoir, on va commencer par des lectures assez longues. Donc il y a d'abord un long texte qu'on a reçu il y a quelques semaines déjà, qui va être lu par Pierrot et qui est finalement un peu comme le long texte de l'infâme la semaine dernière, un parcours carcéral, voilà, quelqu'un qui raconte son parcours. Et donc Pierrot va, je laisserai Pierrot l'introduire. Ensuite, on va écouter Elsa qui va nous lire un des articles du journal, là, le numéro 52, dont on a pas mal parlé, qui a été envoyé, que vous avez dû recevoir normalement il y a déjà quelques semaines. Donc si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à nous faire signe, notamment à l'intérieur, parce qu'on sait que c'est souvent retenu. Et donc Elsa va lire un article sur Super Dupont-Moretti, là, notre nouveau ministre des tribunaux et des prisons, que voilà, malheureusement beaucoup de gens voient un peu comme un ministre proche des prisonniers. Et voilà, on essaie un peu de démonter ça en montrant, enfin, nous, ce qu'on en pense.
Ouais, et pour rappel, le journal, il est gratuit pour tous les prisonniers et prisonnières. Il suffit de nous écrire en nous envoyant le nom, le numéro d'écrou et la tôle dans laquelle la personne est. Et faut pas hésiter, pour celles et ceux qui sont dehors, à s'abonner en soutien pour qu'il y ait d'autres numéros qui puissent sortir au milieu de l'année prochaine, quoi.
Ouais, et donc ensuite, dans la suite de l'émission, on va parler des prisons pour étrangères et étrangers. On a notamment un témoignage qui est sorti du CRA de Lyon Saint-Exupéry il y a déjà plusieurs semaines, que Serge va vous lire. Et après, on va revenir sur la mort en fait d'un prisonnier dans une prison en Italie et qui avait été enfermé dans cette prison suite à des révoltes dans des centres soi-disant d'accueil, mais en fait qui sont des centres d'enfermement sans papier en Italie. Et ça, cette personne s'est suicidée à la prison de Trévise le 7 novembre dernier.
Et on rappelle que juste quand il y a un suicide en prison, comme quand il y a des morts qu'on nous on qualifie de suspectes pour être gentil, en fait c'est toujours l'administration qui est responsable, parce que c'est l'administration qui pousse à bout, et c'est l'administration qui permet qu'il y ait des matons ou des matones qui puissent être violents au point qu'il y ait des morts, quoi.
Ouais, malheureusement, on a vraiment parlé de beaucoup de gens qui sont morts en prison ces dernières semaines, que ce soit des gens qui se sont suicidés ou qui ont été tués, et voilà, donc que ce soit en France, en Italie ou ailleurs, enfin voilà, c'est vraiment les prisons et les personnels à l'intérieur qui tuent chaque année des dizaines de personnes. Et donc on va revenir sur l'infâme. Dans la semaine dernière, on nous a lu un long texte donc qui revenait sur son parcours, comme je disais. Et là, on va essayer de parler un peu plus de sa situation, aussi des liens qu'on a avec lui, parce que ça fait quand même 4 ans qu'on échange des gens de l'envolée avec lui. Et on essaiera de vous repasser aussi un extrait d'émission, parce que donc il y a 3-4 ans, parfois l'infâme il appelait l'envolée pour discuter en direct. Et du coup, voilà, pour entendre un peu sa voix, vu que l'AP essaye de le faire taire, et ben on essaiera de vous passer un petit message, et donc aussi de rappeler d'autres choses qui lui sont arrivées et sur lesquelles il revenait pas forcément dans le texte de la semaine dernière.
Voilà, et donc on va commencer par laisser la parole à Pierrot, et j'en profite juste avant pour donner encore beaucoup de force à tous les proches des prisonniers et prisonnières. Nous, on sait que voilà, c'est encore plus dur en ce moment, on sait le taf que c'est d'être un ou une proche, donc on vous envoie beaucoup de force, et là on commence par Pierrot.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il y a de ça quelques semaines, le 8 décembre exactement, nous avons reçu un long récit de Renaud Alquier. Il le présentait lui-même comme une sorte de témoignage de son parcours pénitentiaire. C'est ça, évidemment, un très long témoignage qui revient sur une vingtaine d'années. Mais c'est beaucoup d'autres choses aussi. C'est un texte fort, c'est une ballade, désespérée mais qui n'est jamais résignée. C'est une matière à penser les années, la vie, le monde, le sens de nos vies, qui résonne dans cette période que l'on sait particulièrement dure et figée à l'intérieur quand on est loin des siens. Alors, nous avons décidé de vous le lire aujourd'hui, en intégralité, pour cette émission un petit peu spéciale de fin d'année. Bonne écoute. D'une prison l'autre. La première fois que je suis entré en prison, c'était un soir d'hiver. Il n'y avait personne dans les couloirs, quasiment aucun bruit. Et étrangement, au sortir des contraintes de la garde à vue, ma première sensation fut celle d'une liberté. Mais les grilles s'étaient refermées derrière moi et mon seul choix était d'avancer jusqu'au bout du couloir. C'est là que je connus l'humiliation de la grande fouille, celle qui vous ausculte du fond de la gorge jusqu'au trou du cul. La maison d'arrêt, boulevard du Québec, à Orléans, était une de ces vieilles prisons, comme il n'y en a tant en France, glaciale et grise, avec la lumière entrant dans les cellules par une petite fenêtre à plus de 2 mètres de haut, ce qui vous donnait réellement l'impression d'être au fond d'un trou. Le seul moyen de se réchauffer était de s'asseoir sur le tuyau tiédasse qui traversait la cellule de part en part. Il régnait là une discipline des plus certaines. Être sous sa couverture après 7 heures était passible du mitard. La télévision ne fonctionnait que de 17 heures à minuit. Les sorties en promenade fonctionnaient suivant le rituel. Sortie de cellule, attente devant la cellule, au signal descente en rang, fouille à l'entrée, fouille en sortie, et retour suivant le même rituel. Pendant les quelques mois que je passais là-bas, je ne reçus aucun mandat, aucune visite. Pendant un temps, j'eus comme seul co-détenu 2 témoins de Jéhovah réfractaires au service militaire, et la misère dans la cellule était totale. Pas de cantine, pas de tabac, pas de télé, seulement d'interminables parties d'échecs, et la boîte de sucre en morceaux pour combler la faim. Quand ils ont été partis, c'est un vieux gitan qui sortait du mitard qui m'a rejoint. Là, j'ai fumé, j'ai bu du Ricard, j'ai su où trouver un flingue à ma sortie, et je l'ai écouté parler pendant des heures sans comprendre 3 mots. Des fois, j'escaladais jusqu'à la fenêtre, j'essayais de voir au plus loin, mais de l'autre côté des murs, je ne connaissais rien. Un jour, les portes se sont ouvertes, et je me suis retrouvé devant, un peu comme sur un quai de gare. Toute cette vie m'a sauté à la tête, le bruit, les gens, les voitures. Personne ne m'attendait, bien sûr. Mais c'est pas pour ça qu'une larme a coulé sur ma joue. Peut-être ce froid qui piquait tellement. J'ai commencé à marcher dans la rue sans savoir où j'étais, ni où aller. Mais le regard des passants était intenable, comme si l'endroit d'où je sortais était écrit sur ma figure, comme si je promenais avec moi toute l'odeur de la tôle. Mais le pire, c'était cette rage qui était en moi. Je n'avais que l'envie de me battre et de tout casser. J'ai marché dans la ville et j'ai fini par trouver la gare. Les éducateurs de Limoges m'avaient envoyé un billet de train. Je devais rentrer, j'avais une assignation. J'ai échangé le billet de train et je suis parti dans la direction opposée. La vie continua. 2 années plus tard, la justice me rattrapa, me faucha en plein vol et je fus incarcéré à la prison Saint-Michel de Toulouse. C'était le plein été, il faisait une chaleur terrible. Les lascars du Mérail sortaient en promenade avec les serviettes pour la bronzette. Les postes crachaient aux fenêtres. Et depuis le bâtiment des mineurs, ça braillait toute la journée. Nous étions 2 en cellule. Mon codétenu avait pris perpétuité avec une peine de sûreté. Il attendait de rejoindre un centre de détention pour y passer la plus grande partie de sa vie. Je ne lui ai jamais demandé ce qu'il avait fait et cela ne m'importait pas. Je n'avais pas à le juger une fois de plus. D'autres l'avaient fait et avaient estimé que son crime correspondait à l'équivalent d'une peine de mort et que cette peine, il l'effectuerait de son vivant. Nous avions seulement le même âge. Mais lui connaissait son destin, ce qui finalement, à 21 ans, est plus triste que tout. C'était un type ordinaire, pas du tout un voyou. Il avait entamé des études avant tout ça, en avait repris d'autres en prison, une fois qu'il s'était fait une raison et que les désirs de suicide et d'évasion s'étaient envolés. Il restait tout de même un détenu dangereux. Les matons le savaient, mais je n'aurais eu qu'un mot à dire pour changer de cellule immédiatement. Tout comme lui n'aurait eu qu'un mot à dire pour me faire envoyer ailleurs s'entraîner. Mais nous nous étions bien entendus. Nous avions de bonnes conversations et c'était un adversaire redoutable aux échecs. La cellule où nous étions était au dernier étage, juste au coin jouxtant le quartier des femmes. Parfois, pour échapper à la chaleur, je grimpais à la fenêtre et je passais les jambes entre les barreaux pour m'asseoir là un moment. Le soir, entre le repas et le début de la nuit, à l'heure où les yo-yo voyagent de cellule en cellule, je les regardais communiquer entre elles. Elles avaient mis au point une technique très impressionnante. Elles sortaient un petit miroir pour voir la cellule voisine, et avec leur autre main, du bout du doigt, elles traçaient en l'air l'écriture de leur message. Il n'y avait aucun bruit, aucune parole n'était prononcée. Et ces conversations silencieuses étaient d'une grande beauté. Je n'ai jamais réussi à en déchiffrer le moindre mot, mais ces mains de femmes s'échappant d'entre les barreaux m'évoquent invariablement l'harmonie. Néanmoins, ce temps passé dans cette prison, aujourd'hui désaffectée, brisa quelque chose en moi. Je ne saurais dire quoi, mais il me fut extrêmement difficile de retrouver le contact avec le monde libre. Quand je sortis, je n'étais plus dans la mouvance. Un pote m'attendait à la terrasse du bistrot d'en face. J'avais bu une bière, j'avais passé la nuit et le lendemain, j'avais tracé ma route vers d'autres horizons. La vie continua. J'avais 30 ans. Nous étions au mois de novembre quand les portes de la maison d'arrêt de Cherbourg se fermèrent sur moi. J'avais fait une vie, j'avais eu une femme, des enfants, un travail, un avenir. Et puis soudain, plus rien. Les petites maisons d'arrêt comme Cherbourg sont les pires qui soient. Ce sont des cellules où s'entassent 9 à 10 détenus. L'atmosphère y est irrespirable et la violence omniprésente. Durant ces années, la population carcérale a également évolué. Il y a là toutes sortes de peines, et tout est mélange. Les petits dealers, les alcooliques de la route, les peines les plus insignifiantes et les meurtriers en attente de transfert. Ce qui a changé également, c'est la politique de la camisole chimique. Désormais, l'administration délivre des cachets à qui en veut comme des bonbons. Un grand nombre de détenus passent leur journée comme des zombies sous leur couverture ou à piquer du nez dans la cour. Et la télé tourne 24 sur 24. À Cherbourg, la douche est dans la cellule. Il n'est pas rare qu'un détenu y reçoive le contenu de la bouilloire. Pour le petit mec sans défense, mieux vaut ne pas tomber dans la cellule du petit caïd local, car sa vie va devenir très difficile. De mon côté, j'avais évité les ennuis, et personne n'était venu me chercher des noises bien longtemps. Finalement, la cellule s'était organisée, un équilibre s'était créé, et nous nous étions bien serrés les coudes. Je ne pensais qu'à écrire toutes sortes de textes et de poèmes, comme des instantanés de vie. Je lisais également beaucoup, les auteurs médiévaux, arabes, qui m'accompagnent partout, le Coran, Guillaume Apollinaire, Arthur Rimbaud. J'avais également été profondément marqué par le documentaire « When We Were Kings » sur Mohamed Ali. Au fond d'une cellule, le message du boxeur arrivait comme encore multiplié. Il fallait résister, tenir, savoir encaisser pour pouvoir porter le coup fatal au bon moment. À ma sortie, je n'avais en poche que le misérable pécule de sortie et pas vraiment d'endroit où aller. Au bout de 3 jours de galère, je me fis arrêter bêtement pour une broutille et je me retrouvai un soir devant les juges de la comparution immédiate de Bordeaux. Ils comprirent certainement que ce qui me menait devant eux était peut-être dû à une défaillance du système. Je sortis libre du tribunal et la vie continua. Je passe sur les 15 jours que je fis quelque temps plus tard à la maison d'arrêt de Saint-Malo pour cause d'erreur judiciaire. Mais au printemps de l'an 2000, je fus balancé par un casseur de Meudon et incarcéré à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine à Nanterre. La MAH S92 était une de ces prisons à fonctionnement semi-privé gérées à ce titre par la Sodexo, spécialiste de la restauration collective. Les détenus y étaient payés entre 20 et 30 francs, entre 3 et 4,50 euros par mois pour 39 heures de travail hebdomadaire. C'était une prison assez moderne où les cellules s'empilaient sur 4 étages, suivant la structure en croix classique, avec rotonde au centre. J'avais obtenu une cellule seule. J'étais dans un quartier qui hébergeait surtout des pointeurs au rez-de-chaussée. C'était le prix à payer, mais je ne voulais pas de télé ni de compagnie. Juste être seul pour pouvoir lire et écrire. Ce coin de bâtiment était surnommé le Bronx. Le soir, le bruit était infernal et dès la nuit tombée, les rats pullulaient dans la cour qui formait l'angle des bâtiments. Une quantité de rats phénoménale qui se régalait des barquettes Sodexo qui avaient volé entre les barreaux. La journée, les barquettes faisaient l'affaire des pigeons. Des pigeons tout gris et maigres, parfois amputés d'une patte. Des vrais pigeons de misère. Une nuit, j'entendis des cris terribles dans la cellule en face de la mienne. Puis le détenu se mit à tambouriner contre la porte et de la fumée commença à entrer dans ma cellule. De nombreux détenus se mirent à taper et à appeler. Au bout d'un temps, j'entendis les matons se ramener sans se presser. Ils s'avisèrent visiblement la situation et repartirent rechercher les clés. Dans ma cellule, la fumée devenait vraiment forte et une fumée noire commença à s'élever au-dessus du bâtiment. Les matons revinrent, cette fois plus rapidement, et le détenu gravement brûlé fut évacué. En raison de la population de mon étage, je sortais peu en promenade, mais pas une fois je ne ratais le sport. Le foot en prison, c'est toujours un bon moment. J'eus l'occasion d'y rencontrer de ces gars des cités de la banlieue parisienne qui étaient de vrais lascars à l'intelligence très vive, et j'y héritai du surnom de Jean Valjean, qui me fit bien rigoler quelques années plus tard quand un ami m'offrit une paire de chandeliers. Je sortis au bout de quelques mois, récupérai mes deux sacs, dont un rempli de livres. Le surveillant m'accompagna jusqu'au dehors pour me rendre quatre grands couteaux de cuisine qui étaient dans mes affaires, et je repartis vers le RER le plus proche. Il faisait un soleil éclatant. Et la vie continua. Une année se déroula et un matin de bonne heure, comme je marchais sur un boulevard désert de Granville avec une fille, un fourgon de police nous croisa. Il fit immédiatement demi-tour et vint s'arrêter à côté de nous. Un grand flic en déboula suivi de ses collègues. Il me connaissait. Il ne me demanda pas mes papiers mais entreprit de m'embarquer direct. Il s'ensuivit un bref échange de politesse et quelques secondes plus tard, il m'écrasait la tête sur le trottoir avec sa jambe tout en tirant comme un fou sur mon bras pour me passer les menottes. Un de ses collègues me tenait en joue, un autre ceinturait la fille. J'ai parfois eu, dans certaines situations, l'impression que ma dernière heure était venue, et celle-ci entre dans cette catégorie. L'étouffement, la tension, la panique dans laquelle se trouvent ces guignols, tout ça est extrêmement angoissant, et il n'est pas étonnant que des gens meurent au cours de telles interpellations. Une voiture de renfort arriva rapidement, toute sirène hurlante, et dès que je fus chargé sur la banquette arrière, je pris encore une bonne baigne au visage. J'étais totalement à court de souffle, et je fus encore frappé plusieurs fois durant le trajet jusqu'au commissariat. Dans la cellule de garde à vue, toujours menottée, j'avais repeint les vitres avec le sang que je crachais. Je n'étais pas resté bien longtemps. Il m'avait rapidement emmené à la prison de Coutances. Mais là-bas, impossible de défaire les menottes. Elles étaient tellement serrées que le système d'ouverture était cassé. Les matons s'étaient bien foutus de la gueule des flics avant de m'emmener à l'atelier de la prison pour les scier. La prison de Coutances, c'est le Moyen-Âge. Je crois me souvenir que nous étions 12 dans la cellule. Et la toute petite cour de promenade. Je ne restais que quelques jours. J'eus les chaînes aux mains et aux pieds, et je fus transféré à Saint-Malo. Là-bas, dans un premier temps, j'ai eu comme codétenu un jeune qui était tombé dans les cachetons. Je l'avais surnommé Pikachu. Il était totalement dépressif, et un jour, en rentrant de promenade, je l'ai retrouvé pendu. Heureusement, il n'était pas encore mort, mais à partir de ce moment-là, dès que je m'absentais de la cellule, il tentait de mettre fin à ses jours. J'essayais de le raisonner, je parlais avec lui, et puis finalement, comme il continuait ses tentatives, je l'informais que la prochaine fois je serais dans l'obligation de lui déboîter la gueule. Cela eut une certaine efficacité, et il se calma un moment. Le bricard me convoqua, mais durant cet entretien il m'expliqua qu'il trouvait que je gérais très bien le Pikachu et qu'il le laisserait encore un certain temps sous ma responsabilité, en échange de quoi nous serions affectés dans une cellule plus grande. Quand je remontais, je le retrouvais de nouveau pendu. Je m'étais absenté trop longtemps. Une fois dans la nouvelle cellule, je le mis à l'amende de ses cachets. Il devait me les remettre, et c'est moi qui déciderai des doses. Cet effort de ma part lui coûta de surcroît la paire de Nike Air qu'il avait au pied. Finalement, il alla mieux. Il sortit de nouveau en promenade et alla à l'école. Mon second co-détenu était un mec qui, un jour, avait fait le jackpot au casino. Il était parti claquer son gain dans un grand voyage aux États-Unis, mais devenu totalement accro au jeu, quand il n'eut plus un sou pour financer sa passion, il se lança dans la cambriole. Il en fit un nombre important, mais dépensa systématiquement tout son bénéfice dans les machines à sous. Au bout de cette spirale infernale, il prit un an de prison. Lui aussi était un joueur d'échecs redoutable et le temps passa ainsi. J'eus des mandats, des parloirs pour la première fois de ma vie. Et j'obtins la libération conditionnelle. Quand je sortis, la fille m'attendait devant la porte et nous traçâmes notre route loin de tout ça, en nous arrêtant dans chaque bar pour boire un rhum. Et la vie continua. Je retrouvai la maison d'arrêt de Cherbourg 2 ans plus tard pour une peine à solder, quelque chose dont il faut se débarrasser. À ce moment-là, mes affaires allaient bien. Et j'y entrais avec un petit pécule qui me permettait de voir venir les cantines essentielles. Je retrouvais aussi les cellules de 9 détenus. Celles où je fus affecté étaient essentiellement composées de jeunes entre 18 et 21 ans. Ce que je remarquais au cours de cette incarcération, c'est que 5 d'entre eux étaient orphelins de père. Le plus ancien de la cellule l'était également, depuis son plus jeune âge. Il avait connu les prisons pour mineurs, pour jeunes majeurs, et à 40 ans, il estimait qu'il avait pratiquement passé la moitié de sa vie en prison. Sa taille, sa carrure et son expérience lui assuraient un respect certain de la part des autres détenus. Cela assurait la paix de la cellule, à l'intérieur de celle-ci comme dans la cour. Les jeunes avaient des profils variés. Certains étaient des petits voleurs, des petits dealers et d'autres faisaient déjà tourner des affaires bien organisées. Les fêtes de Noël sont une période particulière en prison, durant laquelle tentatives de suicide et d'évasion se multiplient. Mais cela ne se passa pas si mal. Même si le bonne année de rigueur fut vite ravalé et que tout le monde se coucha de bonne heure pour mieux laisser planer ce blues de la solitude et de l'exclusion. Car qui que l'on ait pu être à l'extérieur, qui que l'on soit même à l'intérieur, quoi que l'on ait fait rentrer au dernier parloir, quoi que l'on ait reçu comme nouvelle au dernier courrier, vient un moment où rien ne peut nous extraire de notre condition de prisonnier. Où les murs, les barreaux, le tintement des clés dans le couloir, le glissement de l'œil dans le judas, tout cela nous enveloppe dans un sommeil aussi doux que la mort, pour un rêve où chacun est innocent. Et la vie continua. J'étais sorti un matin, il faisait froid. Une fille devait venir me chercher, mais elle était en retard et quand elle arriva, j'étais déjà reparti. J'avais un autre rendez-vous. Quelques semaines plus tard, un fils allait naître et ma vie lentement changeait. Voilà bien des années maintenant que je n'ai pas mis les pieds dans un commissariat, un palais de justice ou une prison. Et je ne veux même pas penser que je retournerai dans l'un de ces endroits un jour. Mais même après tout ce temps, il arrive que la prison se rappelle à moi. Par l'odeur d'un mégot, par une impression, par la façon dont vivent les gens qui, pourtant, en ignorent tout. J'ai mis longtemps à l'abandonner, à ne plus y penser, à ne plus la revendiquer. Généralement, j'évite même d'en parler. Je n'en ai pas ramené de tatouage, car je voulais qu'elle ne laisse aucune marque sur ma personne. Aujourd'hui, je vois des gens qui réfléchissent à l'abolition de la prison. Et c'est certainement ce qui m'amène à en parler encore une fois. J'ai longtemps considéré l'abolition de la police, l'abolition de la prison, comme des conséquences d'une société nouvelle. Aujourd'hui, je les conçois davantage comme les déclencheurs de cette société. Je n'ai pas fait de longues peines, mais une multitude de peines qui, cumulées, représentent plusieurs années de ma vie. Je pense qu'au-delà de 3 années consécutives, la personne est atteinte de manière grave par la prison, par le message de répétition infernale qu'elle envoie de jour en jour comme une irradiation. Mais il n'est pas de petites peines ou de longues peines. La prison est la même pour tous. Certains sont détruits au bout de 2 jours. D'autres résisteront des années, mais en garderont des marques indélébiles au fond de leur être. De tout le temps que j'ai passé en prison, je ne retiens rien. Je n'y ai rien appris, rien compris, et je n'y ai réfléchi sur rien. Juste à cette chose. Bats-toi, ne baisse pas les bras, encaisse et encaisse encore. Puis, le moment venu, porte le coup fatal. La vie continue. R.A. Le 8 décembre 2020.
Vous êtes de retour dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis. Donc, on vient d'écouter Pierrot qui a lu un long texte. Donc déjà, merci beaucoup à la personne qui a pris le temps de faire sortir tout ça. C'est toujours des grosses histoires qui donnent un peu à voir ce que c'est aussi la prison et ce système un peu fou. On essaiera de le diffuser un maximum, donc il sera disponible assez rapidement sur le site. Et on essaiera de le faire tourner, on tiendra au courant quand il sera posé sur le site. Donc un gros big up à toi. Et là, on va passer sur un autre enregistrement, où cette fois-ci, c'est Elsa, qui va nous lire un article qu'on a écrit dans le numéro 52. On rappelle qu'on l'a sorti il y a déjà plus d'un mois, donc il est gratuit pour les prisonniers et prisonnières. Et cet article qu'on a décidé de vous lire aujourd'hui, en fait, il revient sur la nomination de, comme tu disais, Arthur, de Dupond-Moretti, et donc... la nomination de ce ministre qui est soi-disant présenté comme proche des prisonniers, mais qui en fait depuis le début est un des ministres de la justice les plus hardcore qu'on ait vu nous ces dernières années, quoi. Enfin, tout ce qu'il fait à la fois symboliquement et dans les faits est particulièrement dégueulasse et du côté des matons, et comment il sert plutôt en fait de son expérience d'avocat pour niquer encore plus la population qui est enfermée en ce moment en tôle, quoi. Et donc, juste pour dire, voilà, là, il va y avoir cette lecture, ça va durer une dizaine de minutes, et puis on va enchaîner directement avec la musique, et après, on va continuer à parler, comme assez souvent dans cette antenne, des prisons pour sans-papiers, et donc du CRA de Lyon, comme on expliquait.
Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez ? Sûr ?
Ah oui, sûr. Non. D'abord, personne ne me le proposera, ce sera un bordel, mais alors... Et moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non.
Super Dupond-Moretti. Un article tiré du journal L'Envolée, numéro 52, paru en octobre 2020. nous avons accueilli la nouvelle de la nomination de Dupond-Moretti comme ministre des tribunaux et des prisons avec un grand éclat de rire. Alors que l'ambiance est électrique en prison, c'est un joli coup politique de donner les clés de la maison à un avocat à la réputation de héros de la défense judiciaire. Mitterrand l'avait fait en juin 1981 en nommant à la tête du ministère Badinter, l'avocat du dernier condamné à mort. Comme lui, Dupond-Moretti est assez largement apprécié en prison. Vu de loin, il a effectivement tout de l'ami du prévenu. Grande gueule, issu d'un milieu populaire, quelques surnoms de guerrier, l'ogre du Nord, quand il était au barreau de Lille, le terroriste des prétoires, parce qu'il ferait peur aux juges. Et surtout, Akitator, version déformée par la presse du sobriquet d'Akitador, qu'il s'était lui-même donné en référence à sa passion pour la corrida et ses matadors. Dupond-Moretti tient d'ailleurs une comptabilité précise de ses acquittements, 145 aux dernières nouvelles. L'envolé connaît Dupond-Moretti pour l'avoir croisé dans les prétoires. Certains de nos amis ont eu affaire à lui comme avocat. Ils ont vite déchanté. Selon eux, son efficacité, il la doit essentiellement à ses petits arrangements avec les juges. Il connaît mal ses dossiers et ce n'est pas particulièrement un ténor du barreau. Par contre, il demande beaucoup d'argent. Avec des honoraires de 70 000 euros par mois, celui que la presse dépeint comme le défenseur des humbles et des sans-grades a amassé de quoi acheter de belles voitures, des villas et quelques vignobles. Maintenant qu'il est ministre depuis quelques mois, à nous de le juger sur ses actes d'homme d'État plutôt que sur ses paroles d'avocat. Est-ce vraiment lui, le ministre qui va défendre les prisonniers face aux juges et aux matons ? Super Dupont, bon, super Dupont, bon, bon. Super Dupont, bon, super Dupont, bon, bon. Musclé. Un ministre de la justice qui n'aime pas les juges ? En septembre 2020, les juges ont pris peur. Depuis plusieurs jours déjà, l'institution judiciaire est clairement attaquée par son sommet et celui qui devrait la protéger, le garde des Sceaux. Il s'agit ni plus ni moins d'une tentative d'intimidation et de déstabilisation contre notre corps professionnel, s'écrit l'Union syndicale des magistrats et le syndicat de la magistrature dans un communiqué commun. Ils en appellent même à une grande manif de juges contre leur ministre. De mémoire d'envolée, on n'avait jamais vu ça. Du coup, on se permet quelques petits conseils pour les novices des manifs. Surtout, n'acceptez pas la comparution immédiate, les gars. Et puis, très important, en garde à vue, faut mieux rien dire. Mais d'où vient une telle frousse chez ces gens dont la voix tremble rarement quand il s'agit de condamner ? Tout d'abord, Dupond-Moretti, avocat, a toujours péroré contre la magistrature. Cette institution de faux cul, ce petit monde de l'entre-soi et de l'irresponsabilité, où règne l'endogamie triomphante et la consanguinité millénaire. Il réclamait à l'époque la fermeture définitive de l'école de la magistrature. Dupond-Moretti, ministre, est plus pondéré. Il veut bousculer les traditions surannées et la tentation de vase clos de la magistrature en nommant, tenez-vous bien, une avocate à la tête de leur école. Mazette, tout va changer. À l'évidence, les nouveaux juges fraîchement émoulus de cette école voudront inverser l'échelle des peines. Ils acquitteront les braqueurs, donneront des tiges aux pédophiles et condamneront leurs amis d'enfance, devenus banquiers, à des perpètes assorties de peines de sûreté. Et puis, Dupond-Moretti s'en est pris aux magistrats du parquet national financier, le PNF. Il se trouve que trois de ces magistrats instruisaient l'affaire Bismuth, qui mettait en cause Nicolas Sarkozy, alias Paul Bismuth, dans une histoire de corruption impliquant le premier avocat général près la Cour de cassation. Dans le cadre de cette enquête, ils avaient mis sur écoute les téléphones des principaux intéressés, mais la chose a été ébruitée par une taupe. Les magistrats du PNF ont donc diligenté une enquête parallèle sur les liens du milieu politique avec certains avocats pour débusquer la dite taupe. Dupond-Moretti y figurait en bonne place. Encore avocat au moment de ces révélations, notre homme a riposté en portant personnellement plainte pour violation de l'intimité et de la vie privée et du secret professionnel et abus d'autorité contre ces trois magistrats du PNF. Devenu ministre, il a retiré sa plainte, assurant qu'il n'y aurait pas de conflit d'intérêts. Mais quelques jours plus tard, il ordonnait une enquête disciplinaire contre ces trois juges. Encore une fois, que la profession se rassure. Les fameuses attaques de Dupond-Moretti ne visent qu'une minorité de magistrats, les juges dits anticorruption, qui veulent mettre leur nez dans les affaires des riches et des puissants. Que ces magistrats-là soient mis à l'amende, ce n'est pas une grosse menace pour la profession. Au contraire, le nouveau ministre montre ainsi qu'il saura défendre les intérêts de classe des magistrats, hommes politiques et autres grands patrons, pour peu qu'il respecte les règles et les arrangements de ce milieu. Car il a fini par en faire partie, de ce petit monde, ce fils d'un ouvrier métallurgiste et d'une femme de ménage. En quelques années, il est devenu un avocat du gratin, défenseur de la délinquance en col blanc, de Bernard Tapie à Patrick Balkany, en passant par Jérôme Cahuzac, Georges Tron ou Karim Benzema. En 2019, il a même été choisi par l'État pour défendre les policiers dans le procès qui visait Jean-Luc Mélenchon. Dans le genre faux cul champion de l'entre-soi, il se pose un peu là, le nouveau ministre. Un ministre de la justice qui aime les prisonniers ? Le 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour les conditions de détention indignes dans ses prisons. Le 8 juillet 2020, s'appuyant sur cette décision, la Cour de cassation rend un arrêt qui oblige les juges à ordonner la remise en liberté immédiate d'un prisonnier en préventive si les conditions de détention sont jugées indignes. Assis dans son nouveau fauteuil, Dupond-Moretti est chiffonné. Fini acquittator. Fini l'interminable liste des prévenus qu'il a sauvés de la prison. Il faut maintenant faire face à la menace d'une déferlante de demandes de mise en liberté de prévenus. Heureusement pour lui, c'est l'été et les avocats sont en vacances. Pour anticiper la rentrée, le nouveau ministre pond donc le 7 août une note interne suggérant aux procureurs et aux directions interrégionales des services pénitentiaires quelques pistes pour compliquer de telles demandes. 1. Tout d'abord, il leur rappelle que c'est aux prisonniers de faire la preuve de ces mauvaises conditions de détention. Un casse-tête quand on est enfermé entre quatre murs. Comment prouver qu'on est entassé dans une cellule, que la fenêtre est trop petite ou que les WC sont cassés si on n'a pas le droit de faire des photos ou encore moins de les faire sortir. 2. Si un commencement de preuve est constitué, la note stipule que l'administration pénitentiaire et le parquet doivent vérifier les dires des prisonniers avant l'audience. 3. La note indique que la mise en œuvre par l'administration pénitentiaire de mesures correctrices, des travaux dans une cellule par exemple, ou le transfert du prisonnier plaignant, pourrait être considérée comme suffisante pour mettre fin au caractère indigne des conditions de détention. Autant dire que l'AP a toutes les cartes en main pour empêcher les plaintes d'aboutir, y compris celle de brandir la menace de transfert pour dissuader les prisonniers de porter plainte. Anticipant les plaintes éventuelles, l'AP projette une série de transferts pour rééquilibrer le nombre de prisonniers dans les maisons d'arrêt d'une même région. Par exemple, une partie des prisonniers de la MA de Nanterre, occupée à 131%, sans douche en cellule, avec une promenade par jour, pourrait être transférée à Fleury-Mérogis, occupée à 95%, avec douche en cellule et deux promenades par jour. Merci, incarcérateur! Malgré tous les bons conseils du ministre, rien n'est joué, et ça vaut le coup de tenter une demande de libération. Vous trouverez un mode d'emploi à la page 43 du numéro 52 du journal L'Envolée. Super Dupont, bon, super Dupont, bon, bon, super Dupont, bon, super Dupont. Un ministre de la justice qui aime les matons. Dupond-Moretti drague outrageusement les matons et leurs syndicats. Le 22 septembre, il est à Clairvaux pour rendre hommage à trois agents de l'administration pénitentiaire morts en exercice en 1971 et 1992. Dupont joue un drôle de jeu en choisissant cette date symbolique. En 1971, un maton et une infirmière sont morts lors de la prise d'otage de Buffet et Bontemps. Les deux hommes ont été condamnés à mort. Avocat de Bontemps, Badinter avait fait de sa défense un plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. Le ministre a-t-il voulu suggérer par la récente commémoration que la peine de mort était une réponse à la hauteur de la détresse des familles et des surveillants ? La référence à 1992 touche un autre point sensible, car elle renvoie à la seule évasion de Clairvaux, cette abbaye forteresse dont on ne s'évade pas. Le 11 septembre 1992, 8 prisonniers tentent la belle. Lors d'un échange de coups de feu, l'un d'eux, Rémi Morard, est tué net par la balle d'un maton, qui, lui, mourra quelques heures plus tard des suites de ses blessures. Une grève de matons de plusieurs semaines s'ensuit dans une centaine de prisons. Le gouvernement doit mobiliser 40 escadrons de gendarmes mobiles et de CRS, soit environ 2800 hommes, pour surveiller les prisonniers et distribuer des repas. Dupond-Moretti fait donc ici un gros clin d'œil au mouvement de matons de 2018. Il promet de nouvelles mesures de sécurité, une augmentation du budget de l'administration pénitentiaire, 40 prisons bientôt équipées de brouilleurs de téléphones portables, une revalorisation du statut de surveillant au niveau de celui des policiers, avec une réflexion sur l'armement du personnel, une prise en charge des orphelins de surveillants morts en exercice pour les aider à devenir des adultes fiers du métier de leurs parents, une politique active de recrutement. En clair, à peine arrivé au ministère, Dupond-Moretti donne pleine satisfaction à toutes les sempiternelles revendications des syndicats de matons. Aucun garde des Sceaux n'a jamais fait ça avant lui, même sous la pression d'un mouvement qui avait bloqué les parloirs pendant plusieurs semaines. Autant dire que les matons ont trouvé le meilleur des avocats pour plaider leur cause. Ça fait déjà un bon petit bilan pour seulement quelques mois au ministère. il faut continuer à se méfier de ce ministre qui, sous ses dehors populaires, est un véritable populiste, car il est en mesure de nous faire avaler de grosses couleuvres.
Personne n'aurait jamais l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterais jamais un truc pareil, non.
Yo, it's a letter I got from my man Nas, man. Where was this born?
What it say? What up, kid? I know shit is rough doing your bit. When the cops came, you should have slid to my crib. Fuck it, Black, no time for looking back is done. Plus, congratulations, you know you got a son. I heard he looks like ya. Why don't your lady write ya? Told her she should visit, that's when she got hyper. Flippin', talking about he acts too rough. He didn't listen, he be rippin' while I'm telling him stuff. I was like, yeah, shorty don't care. She a snake too. Fuckin' with them niggas from that fake crew that hate you. But yo, guess who got shot in the dome piece? Jerome's niece on her way home from Jones Beach's bug. Plus little Rob been selling drugs on a dime, hanging out with young thugs that all carry nines. And nighttime is more tripe than ever. What up with poor Mega? Did you see him or y'all together? If so, then hold a fort down, represent to the fullest. Say what's up to Herb, Ice and Bullet. I left for half a hundred in your commissary. You was my nigga when push came to shove.
One what?
One love.
One love. One love. One love.
Stay strong, out in New York, the same shit is going on. The crackhead stalking, loud mouths is talking. Ho, check out the story yesterday when I was walking. That nigga is shot last year, try to appear like he hurt something. Word him up, I heard him fronting, and he be pumping on your block. Your man gave him your Glock, and now they run together. What up, son, whatever. Since I'm on the streets, I'ma put it to a cease. But I heard you blew a nigga with an ox for the phone piece. Wildin' on an Allen, but now with Elmira, better chill, cause them niggas will put that ass on fire. Last time you wrote, you said they tried you in the showers. But maintain when you come home, the corner's hours on the rails. All these crap niggas know the deal. When we start the revolution, all they probably do is squeal. But chill, see you on the next VI. I gave you my Duke's loop for kicks, plus sent your flicks. Your brother's buck wildin' in Fort Maine. He wrote me, he might be this case, silly. Come home, I'm playing low key. So stay civilized, time flies. No incarcerated, your mind dies. I hate it when your mom's cries. It kinda makes me wanna murder, for real. I even got a mask and gloves to bust slugs. But one love.
One love, one love.
A Buddha sack, minds in another world, thinking how can we exist through the facts written in school textbooks, Bibles, etc. Fuck a school lecture, the lies get me vexed up. So I be ghost for my projects. I take my pen and pad for the weekend, hitting nails while I'm sleeping. A 2-day stay, you may say I needed time alone to relax my dome. No phone left and not at home. You see, the streets had me stressed, something terrible. Fucking with the pointers, have a nigga up in Bellevue at HDM, hit with numbers from 8 to 10. A future in a maximum state pen, it's grim. So I comes back home, nobody's out but shorty do up from the two fillies together in the prison, we call them oops.
Vous êtes bien de retour dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Donc là, comme on va discuter rapidement de la situation dans un centre de rétention, une prison pour sans-papiers, qui est le CRAC Lyon, où il y a eu une manif la semaine dernière. Avant ça, juste pour rappel, pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, L'Envolée-FPP. Pour nous appeler, c'est au 07 52 40 22 48. On est aussi joignable sur tout un tas de réseaux sociaux, WhatsApp, Signal, Telegram, Instagram et je sais pas trop quoi d'autre. Et juste pour rappel, cette émission est enregistrée. L'émission de la semaine prochaine le sera aussi. On reviendra en direct à partir de début janvier. Donc là, comme je disais, on voulait parler un peu de la situation au CRA de Lyon, qui est assez tendue depuis quelques mois, où se sont succédés grève de la faim, communiqués, personnes qui sont atteintes, qui sont malades du coronavirus, pas mal de violences policières. Voilà, et là-bas, il y a un collectif qui fait du gros taf pour se mettre en lien avec les prisonniers du CRA, qui a un blog qui s'appelle crametoncralyon.noblog.org et qui lutte avec le collectif de sans-papiers de la ville contre ce centre de rétention en profitant un peu de l'effet de la marge de solidarité, donc cette espèce d'organisation qui est montée par tout un tas de collectifs de sans-papiers depuis d'abord la région parisienne, puis après depuis pas mal d'autres villes. Et donc pour la troisième ou quatrième fois là en 2-3 mois, il y a à nouveau eu une manif la semaine dernière devant le centre de rétention de Lyon. Il y a la dernière, elle était au niveau de la préfecture de France Terre d'Asile, qui est l'association qui est censée soutenir les prisonniers mais qui coopère avec les keufs dans le CRA, et du tribunal du JLD où sont jugés les prisonniers et prisonnières de ce centre de rétention. Et donc là, on va vous passer l'extrait d'un témoignage. On va vous passer, pardon, la lecture d'un témoignage par Serge, d'un prisonnier du CRA de Lyon. Le témoignage, il a un peu moins d'une semaine. Il est disponible, donc, comme je vous disais, sur crametoncralyon.noblog.org. Et on revient juste après pour en discuter, donner peut-être un peu des nouvelles. Et voilà.
Bonjour, je m'appelle Yacine. Je témoigne sur le CRA de Saint-Exupéry. On n'est pas bien ici. C'est sale. C'est dégueulasse. Le nettoyage, c'est pas bien. Les chambres, elles sont sales. Ils ont montré que le nouveau bâtiment à la télé. Quand vous êtes venus, les journalistes, ils ont montré que le nouveau bâtiment. Le quartier jaune, le quartier orange, le quartier bleu, ils n'ont pas montré. Ils sont tous sales, dégueulasses. Ils ont montré le bâtiment qui les arrange. Les autres bâtiments où on dort, ils sont tous sales. Les murs, ils sont sales. C'est n'importe quoi. Ils ont montré que le bâtiment qui les arrange. Même l'infirmerie, le mur, il était jaune. Ils ont dit « Ah, il faut qu'on fasse la peinture blanche parce que la couleur, elle est pas bien. » Ils ont montré que le bâtiment neuf. Voilà. Les autres bâtiments, ils ne les ont pas montrés. Les bâtiments où on dort. On est mal ici. On est maltraité. On n'est pas bien. On n'est pas libre. Normalement, on peut aller où on veut. Au Maroc, les Français, ils viennent sans visa et ils nous expulsent, ils nous renvoient au bled, ils nous renvoient au Maroc, normal, tranquille, comme ils veulent. C'est pas juste ça. J'ai toute ma famille ici, toute ma famille en France. J'ai personne au Maroc. Ça fait 8 ans que je suis en France. Ça fait combien de temps que t'es ici? Ça fait 1 mois et 22 jours. Je suis passé au tribunal, j'ai toute ma famille ici en France. Mes parents, mes frères, mes sœurs, toute ma famille. J'ai même pas un membre au Maroc. Ils veulent m'expulser au Maroc. Il n'y a pas la décision du tribunal pour m'envoyer au Maroc. Et là, ils veulent me faire le test pour m'expulser. Il n'y a pas la décision, c'est pas juste. J'ai toute ma famille ici. Je vais faire quoi au Maroc, moi? Le CRA, c'est sale. C'est comme des racistes. Leur police des frontières, là, c'est comme des racistes. On est maltraité. On n'est pas bien, voilà. C'est la merde ici. Mon ami, il est à côté de moi, il me dit « c'est la merde ». Les policiers, tu dis qu'ils sont racistes, ils font quoi? Ils sont violents avec vous? Ils vous insultent? Ouais, ils gueulent la nuit pour montrer les cartes. Ils viennent, ils nous mettent des coups de pied pour nous réveiller. Pour nous réveiller, ils nous mettent des coups de pied. C'est pas normal. C'est pas la liberté, c'est pas l'égalité, ça. Ils nous traitent comme des étrangers de merde, voilà. Mais pourquoi ils viennent vous réveiller la nuit? Parce que la nuit, ils viennent compter les gens. Ils comptent les gens. C'est quoi la carte qu'ils vous demandent? Ils donnent une carte, il y a ton nom, ta vie, tout, ta date de naissance, comme une carte d'identité. Ça se passe mal, on n'est pas bien. Même la bouffe qu'ils ramènent, c'est périmé. Elle est gonflée, on mange de la bouffe périmée, c'est pas bien. Et vous avez des visites? Ils vous laissent faire des visites? Les visites, normalement, ils ferment la porte. Là, ils laissent la porte ouverte. Ils nous surveillent pour que rentre rien. Ils nous surveillent, ils nous fouillent. Ils nous laissent pas faire la visite tranquille. Mon pote, il a un ami. Il le laisse pas faire la visite. Pourquoi il le laisse pas? Il a mal parlé avec un policier. Ils l'ont mis au mitard. Dès qu'ils sont pas contents, ils vous envoient au mitard. Quand tu parles mal, ils t'envoient au mitard. C'est simple. On dort sur la ferraille, il n'y a pas de couverture, il n'y a rien. Même pas de matelas. Ils te donnent même pas à manger. Un jour, ils m'ont amené au mitard, ils m'ont pas donné mon traitement, ils m'ont laissé comme un chien dans la cellule. Ils vous font rester longtemps ? 24 heures. Ils te donnent pas à manger, ils te laissent sur le métal, sur la ferraille. Hier, tu disais qu'ils vous donnaient des médicaments ? Moi, je suis suivi à l'hôpital X. Je prends des traitements, j'ai un médicament à l'extérieur. Et là, ils veulent pas me le donner. Je sais pas pourquoi. Ils le donnent à tout le monde, et moi, ils veulent pas me le donner. J'ai mal au dos à cause du travail. J'ai cher mal aux dents. Ils veulent pas m'envoyer au dentiste. Ils veulent pas m'envoyer au dentiste. Je peux même pas manger. J'ai mal aux dents. Je peux même pas manger. J'ai les dents toutes cassées. Ils te laissent pas voir le médecin ? Non, il n'y a pas de dentiste ici. Mais le médecin, il peut pas t'aider ? Il donne juste de l'ibuprofène pour le mal. T'as envie de parler d'autre chose ? On n'est pas bien ici. On est enfermé. On voit pas la famille. On est triste. On se sent comme... On n'est pas comme les autres. On n'est pas comme vous. Parce qu'on n'a pas les papiers. On n'a pas le droit de rien. On ne se sent pas bien. On se sent mal. On se sent cher mal. Mal, mal. Mal au cœur. On n'a pas le droit de travailler. On n'a pas le droit de rien du tout. Ça fait depuis 2013 que je suis en France. Ça fait 8 ans. Normalement, au bout de 5 ans, ils te donnent des papiers. Ça fait 8 ans. Ils veulent pas me donner des papiers. Ce soir, il y a une manifestation à Lyon pour la régularisation des sans-papiers. D'accord. Merci. On se tient au courant. Donc c'est un témoignage qui a été recueilli le 18 décembre 2020.
Ouais, donc là, on vient d'écouter le témoignage donc, d'un prisonnier du centre de rétention de Lyon. Moi, il y a deux trucs moi, enfin, sur lesquels j'ai tiqué, en dehors du fait que voilà, ça fait 2 ans donc, qu'on relaye de la parole de cette prison et que depuis 2 ans, les conditions d'enfermement sont toujours aussi dégueulasses. Je voulais aussi juste rappeler au passage qu'ils vont quand même construire une nouvelle prison pour sans-papiers juste à côté de celle-là pour pouvoir continuer d'expulser et d'enfermer toujours plus les prisonniers étrangers. Et il y a deux trucs, c'est que déjà, en fait, la personne, elle évoque les ruptures de traitement, et ça, c'est un truc qui arrive hyper souvent dans les CRA. On en parlait encore récemment au Ménilamlo, en fait, à la fois pour briser des mouvements collectifs ou dans tous les cas, parce qu'ils en ont strictement rien à foutre des gens, il y a tout un tas de gens qui suivent des traitements dehors, qui, quand ils arrivent dans ces CRA, comme quand tu peux arriver en prison, tout un coup se retrouvent genre coupés de tout traitement, ce qui a des conséquences en fait hyper graves, puisque c'est des traitements qui, des fois, le fait de ne pas les prendre peut aggraver clairement l'état de santé de la personne, quoi. Quand, dans le même temps, ils vont passer leur temps à l'infirmerie à donner des médocs aux gens, qui, eux, potentiellement, peuvent les rendre accros, et de la même manière, le jour où ils sont tèges, soit ils sont expulsés, soit tèges du CRA et libérés, bah, tout d'un coup, ils se retrouvent sans médoc, alors qu'on les a rendus accros à un médoc, quoi. Donc il y a toujours ce jeu avec le corps où, en fait, on s'en fout des gens, mais par contre, on essaie toujours de tout faire pour les affaiblir et qu'ils soient le plus à la merci possible de la préfecture pour qu'ils acceptent l'expulsion et que le calvaire, entre guillemets, s'arrête, quoi. Le deuxième truc, c'est l'utilisation du mitard, qui est en fait comme dans toutes les prisons, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ressort, qui nous en parle, c'est la même chose que ce soit en CRA, en HP, en prison, ce truc qui est, en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui conteste, il faut l'envoyer au mitard pour faire l'exemple et pour que tout le monde ferme sa gueule. Et c'est important, c'est pour ça que voilà, on rappelle toujours qu'il faut supprimer ces lieux-là, parce qu'en fait, c'est ce qui permet de maintenir le silence à l'intérieur, parce que c'est des endroits de terreur, parce que c'est des endroits où il y a des gens qui meurent à l'occasion. On en a déjà souvent parlé à SAIS, etc., etc. Mais voilà. Et du coup, on voulait envoyer beaucoup de force aux gens qui sont à Lyon. On continuera de donner des nouvelles à la rentrée. Et voilà, n'hésitez pas, il y aura le lien du témoignage pour celles et ceux qui ont accès à Internet à aller sur le site. Et quand il y a des prisonniers qui prennent le risque, encore une fois, parce qu'on le rappelle, mais pas toujours assez, que parler comme ça à la radio, parler, appeler des collectifs, relayer, enfin, que sa parole soit relayée, c'est un vrai risque au niveau pas tant judiciaire pour les prisonniers en CRA, puisqu'il y a le droit au téléphone, mais c'est un vrai risque des fois de se retrouver tapé par les keufs, plus réprimé, etc., quoi. Et donc là, on va vous parler rapidement, parce que ça a quand même un rapport, c'est que les CRA, ça n'existe pas qu'en France. Il y a aussi des centres de rétention en Italie qu'on appelle CPR. Et il y a pas mal de révoltes qui se passent assez souvent là-bas. Les prisonniers des CRA italiens ont pendant genre pas mal d'années, parce que les centres de rétention là, en Italie, c'est beaucoup plus récent qu'en France, ça a été mis vachement plus en place dans les années 90. Et donc en fait, depuis les années 2000, il y a eu énormément d'incendies dans tout un tas de centres de rétention là-bas, qui ont fait qu'il y a eu pas mal de bâtiments qui en fait ont été hors d'usage, avec des moments où il n'y avait pas de CRA où on pouvait enfermer les meufs sur le territoire, des moments où il y a des endroits, des régions où il n'y avait plus de CRA pour enfermer les hommes, et du coup on ne pouvait pas expulser, on ne pouvait pas arrêter les étrangers et étrangères. Et l'État italien a décidé d'essayer de cadenasser de plus en plus les choses, de réprimer de plus en plus les choses, et donc d'envoyer de plus en plus souvent en prison les gens qui se révoltent dans les tipières. Et là, on va vous raconter un tout petit peu l'histoire de Chaka Outara, qui est une personne qui est passée par un de ces tipières, qui s'est révolté.
Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est des amis qui ont traduit ce que je crois, c'est un texte italien qui, du coup, en fait, donc, pour expliquer, Chaka Outara, c'est quelqu'un qui est mort à l'isolement à la prison de Vérone le 7 novembre dernier. Et en fait, il avait été enfermé là juste 2 mois auparavant parce qu'il avait été déclaré meneur d'une révolte dans un, en fait, pas exactement un CPR, mais quasiment un CAS. C'est des centres d'accueil extraordinaires qui sont des centres qu'ils ont ouverts là pendant l'épidémie pour enfermer les gens sans papier qui ne savaient pas enfermer, enfin, et qui ne sont pas exactement encore officiellement enfermés. C'est censé être des centres un peu d'hébergement, enfin d'accueil. Et sauf que voilà, ce qui explique le texte, c'est que bien sûr, comme en France avec l'épidémie et les mesures de quarantaine, ces centres ils sont devenus les CAS, le centre de Trévise, donc le CAS de Trévise, c'est devenu petit à petit une prison. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui étaient à l'intérieur se sont retrouvées mises en quarantaine. Et donc le 11 juin, il y a eu des mesures d'annoncement, d'isolement qui ont été annoncées par le gouvernement italien, et ils ont réalisé donc des ils ont annoncé qu'ils allaient faire des tests sur l'ensemble des personnes présentes dans ce CAS. Oui, j'ai oublié de préciser qu'il est dans une ancienne caserne de Trévise. Donc, ces personnes sont entre guillemets accueillies dans une ancienne caserne, et on leur annonce qu'ils vont tous devoir faire un test Covid et que dans l'attente des résultats des tests, tout le monde sera mis en quarantaine. Ce qui veut dire qu'en fait, toutes les personnes qui travaillent, par exemple, vont perdre leur travail en fait dans les jours qui suivent. Les résultats arrivent, il y a une seule personne positive, mais il manque encore, il y a 8 personnes ou 9 personnes qui n'ont pas encore eu leurs résultats ou qui n'ont pas encore eu de test. Et donc, dans le doute, il y a une quarantaine préventive pour tout le monde. Donc, il y a 360 et quelques personnes qui sont enfermées à ce moment-là dans cette ancienne caserne. Et pour quelques tests pas réalisés ou dont on attend les résultats, tout le monde voit sa quarantaine prolongée et tout le monde reste enfermé avec des gens, donc une personne positive et des gens dont on ne connaît pas les résultats, alors que tout le monde est négatif. Et donc le 12 juin, il y a une première révolte qui éclate dans les bâtiments et en réponse, la préfecture expulse 3 personnes et dépose 20 plaintes pour qu'elle tient prête pour le moment où l'isolement prendra fin. Ou si jamais quelqu'un réussissait à s'échapper. Le 30 juillet, donc 2 semaines après cette révolte, il y a, donc au début, on rappelle, 2 semaines plus tôt, il y avait une seule personne testée positive au Covid. Il y a une nouvelle campagne de dépistage qui est menée. Cette fois, il y a 133 personnes qui sont testées positives. Du coup, il y a une nouvelle quarantaine qui est déclarée pour tout le monde. Positif et négatif, encore une fois, tout le monde mélangé ensemble. Donc, qui est un truc assez courant, en fait, qu'on a vu sur toute la gestion de la crise du Covid, que ce soit dans les CRA en France, mais aussi dans toutes les frontières d'Europe. Il y avait vraiment clairement aucune mise à l'écart. Enfin, même si parfois il y avait des mises à l'isolement des personnes malades, mais très souvent, on mélangeait les personnes dont on ne savait pas si elles étaient positives ou négatives avec des personnes dont on savait qu'elles étaient positives. Et donc, forcément, à l'intérieur, il y a une nouvelle révolte qui éclate le 30 juillet, parce que les personnes sont de fait enfermées depuis plus de bientôt 2 mois dans ce soi-disant centre d'accueil, et soi-disant pour des raisons sanitaires. Et donc, encore à la fin juillet, il y a encore plus de cas qui sont déclarés. Et donc, le 14 août, il y a une grosse révolte qui éclate. Et il y avait à ce moment-là 244 cas positifs. Donc, ça devenait, je rappelle, au début, c'était à la fois. 2 semaines avant, c'était 133. Et donc 5 jours après cette grosse révolte, il y a 4 personnes qui sont déclarées meneurs, donc comme le fait à chaque fois l'administration pénitentiaire, ici c'est le, je sais pas, l'équivalent de la préfecture italienne, j'imagine. Donc désigne 4 meneurs, les arrête et les accuse d'enlèvement, de violence, de dévastation et de pillage. Et ils sont tous les 4 enfermés à la prison de Trévise. Et donc c'est des chefs d'inculpation et qui ont pas mal été utilisés pour réprimer les émeutes et les révoltes de rue ces dernières années en Italie, mais aussi pas mal justement la lutte contre les chipières, que ce soit les luttes des personnes enfermées à l'intérieur ou les luttes aussi à l'extérieur. Et donc au début ils sont tous enfermés dans la prison de Trévise, les 4 meneurs, les 4 meneurs désignés. Et en prison il y en a un en plus qui arrive aussi à choper le coronavirus. Et en attendant, il y a l'administration pénitentiaire qui s'occupe de les briser, de les diviser. Donc en fait, ils vont être isolés les uns des autres, ils vont être envoyés chacun. Donc on va leur attribuer à chacun un avocat d'office différent. Et ils vont, au bout d'un mois environ, être transférés chacun dans des prisons différentes. Donc un à Vérone, un à Belluno, un à Vicence et un à Trévise. Et donc en plus, sous surveillance spéciale, qui est une forme d'emprisonnement réduit un isolement total, ceux qui sont considérés comme dangereux pour la sécurité de la prison. Et les gens qui écrivent le texte disent c'est sûrement pas un hasard si d'ailleurs cette dispersion et cet isolement s'est produit précisément au moment où les gens avaient réussi à nouer le contact avec ces personnes et où il y avait une correspondance assez dense qui s'était mise en place justement avec ces 4 personnes enfermées et l'extérieur. Et donc en isolement dans la prison de Vérone, l'un d'entre eux, Tchaka, s'est tué à l'âge de 23 ans, donc comme on disait le 7 novembre dernier. Et donc comme l'écrivent les personnes qui ont écrit... qui nous ont envoyé ce texte, donc si nous connaissons cette histoire, c'est uniquement parce que des gens se battent, la colère qui a submergé l'ancienne caserne Serena est celle qui a traversé ces derniers mois les révoltes et les grèves de la faim sur les ferries de quarantaine, les émeutes et les évasions des centres d'hébergement, des hotspots et des chipières, ainsi que dans les camps de travail. Et donc c'est vraiment ça, on a parlé beaucoup malheureusement ces dernières semaines de morts en prison, et en fait trop souvent les morts, en fait on n'entend pas parler, on n'entend que parler parce que des gens se battent à l'extérieur pour faire sortir ces histoires. Et donc voilà, ce texte, il est là d'abord pour ça, pour pas que la mort de Tchaka Ouattara soit oubliée, pour pas que lui soit oublié, et voilà, et pour lui rendre hommage, mais aussi voilà, parce que pour lutter, enfin pour soutenir la lutte de celles et ceux qui sont enfermés dans ces différents types de prisons pour étrangers, étrangères ou sans papier, et qui depuis... le début de cette épidémie de Covid prennent vraiment, d'autant plus cher et vraiment prennent des mesures sanitaires, des mesures répressives au nom de mesures sanitaires vraiment très fortes.
Ouais, et du coup, en fait, l'Italie, c'est quand même pas le seul pays à avoir eu cette gestion-là de l'enfermement massif des travailleurs étrangers, étrangères. Pendant le premier confinement, ça s'est passé beaucoup plus massivement en Italie et en Espagne parce qu'ils utilisent plus massivement des travailleurs saisonniers qu'en France, je crois, mais il y a eu des centres aussi spéciaux qui ont été créés en France pour enfermer des travailleurs saisonniers pour qu'ils puissent être contrôlés sous prétexte toujours de Covid, mais en fait ça a permis juste de renforcer le contrôle de populations qui sont déjà surfliquées, quoi. Et du coup là on va vous passer un petit peu de musique. On revient juste après. Beaucoup de force à celles et ceux qui luttent là-bas en Italie et dans les chipières, quoi.
B.JAMES, un ex-détenu parmi tant d'autres, un Renoir parmi tant d'autres, un mec de banlieue parmi tant d'autres. De la cité à la promenade, de la promenade à mon quartier, à tous ceux qui pensent que le placard c'est le rêve américain. C'était le mois de mai de l'année 2000, à tout juste 20 printemps. À cet âge-là, ça faisait longtemps que je faisais mes sous illégalement. J'étais dans le vol avec armes, les stupes et l'enlèvement. Autant dire que les périodes dures se présentaient rarement. crâne rasé, survêtement Lacoste, Berber Max, au pied BM noir, calibre. Pour tu rave, j'étais toujours OP. C'était la douce époque des francs. Plus j'empilais les liasses et plus sentais venir la patate pour être franc. Drôle de pressentiment, sentir que les barreaux se rapprochent. J'allais béton bientôt, c'est ce que j'arrêtais pas de dire à mes proches. Pourtant, hors de question que j'arrête. J'aimais trop l'adrénaline et l'argent frais pour être honnête. Donc je laissais penser obscur dans un recoin de ma tête. Fallait faire le taf, perdre des sous, ça je pouvais pas me permettre. Pour moi un plan foiré c'est comme les jeter par les fenêtres. C'est dans cet esprit que je suis monté, c'est mon énième séquestre. Au début tout se passait bien, la victime dans le coffre. On avait déjà la mallette ainsi que toutes ses cartes dans les mains. Quand soudain les gyrophares au loin, qui a pu les appeler, je sais bien qu'ils sont pas là par hasard vu le coin. Seule solution courir, c'est donc ce qu'on a fait. Après une heure d'une course effrénée, ils ont réussi à me péter. Passe les détails sur la garde à vagité. Désormais je sais que je suis pas prêt de la voir ma cité. C'est juste une page de mon destin. Cousin je glorifie rien, j'ai fait ma peine comme un bonhomme. Parce que j'en suis un, tellement de paltrins qui disent tellement de conneries devant les petits, qui leur font croire que c'est en allant au star qu'on réussit. On peut pas approcher au monde d'être influençable. À part ça tu bluffes personne, les gens influençables. En tout cas, si t'y as jamais mis les pieds, t'as rien raté. Pour ma part, j'en sors et j'en ai aucune honte ni fierté. Après le dépôt, je monte dans le fourgon, direction le ballon. Ça y est, j'y suis, va falloir que je m'y fasse. Je sais que ce sera long, je passe à la fouille, laisser mes effets personnels. Ma montre, ma gourmette, ma chevalière, ma chaîne, mon oseille. Direction le greffe pour la photo. On m'attribue ma carte ainsi que mon numéro. Désormais, je suis 33690. Après une douche rapide, je monte aux arrivants. Première nuit, j'étais tellement mort, j'ai dormi comme un enfant. Premier réveil, ça y est, j'ai le moral à zéro. À ma fenêtre, des barreaux, des rats dans le patio et des barbelés de paroles. Autre monde, autre mode de vie. Je me dis que le premier qui parle mal jusqu'à sa bouche, qu'il comprenne qui je suis. Première promenade et premier test, peur de personne. Même si certains filles, des mecs de l'aile ouest, cousin. Les premières couraves n'ont pas tardé. J'en ai calmé deux trois, quand tu me cherches ça répond. Maintenant tout le monde sait, je fais mon groupe petit à petit. Principalement des mecs du Val d'Oise et de Seine-Saint-Denis. Les transactions se font par yo-yo, je slap contre Bédo. Les portables arrivent du ciel et on les repêche dans le patio. Y'a des donneuses même au star. Donc de temps en temps un poteau se fait péter le soir pour son portable et se fait traîner au mitard. Dans le vice toute ma jeunesse, impossible que ça cesse. Plus le temps passe, plus je suis à l'aise dans la tôle comme dans ma tête. C'est juste une page de mon destin, cousin je glorifie rien. J'ai fait ma peine comme un bonhomme, parce que j'en suis un tellement pas. Qui disent tellement de conneries devant les petits, qui leur font croire que c'est en allant au star qu'on réussit. On peut pas approcher au monde d'être influençable. À part ça tu bluffes personne, les gens influençables. En tout cas, si t'y as jamais mis les pieds, t'as rien raté. Pour ma part, j'en sors et j'en ai aucune honte ni fierté. Plus d'une pige que je suis enfermé, toujours pas jugé. Les jours se ressemblent et je m'en branle, j'essaie même plus de les compter. C'est pas le facteur, mais le maton qui me donne mon courrier. Il arrive toujours ouvert parce qu'ils ont peur de ce qu'ils peuvent trouver. La rage dans le sang, constamment les idées noires. Surtout après la séance des feuillages obligatoires qui suivent le parloir. Tu laisses ta dignité à la foule quand tu rentres en tôle. Pays des droits de l'homme, cousin, mes couilles, pas de ça dans leur show. Paraît que Malik s'est suicidé, c'est bizarre, un an qu'il était. Là, il lui restait deux jours pour être libéré. Mes potes sortent tour à tour, je suis encore là pour le moment. Il me reste du chemin à faire. Et au fait, j'ai pris 4 ans. Dehors, le monde change, ils sont passés à l'euro. Paraît que la poudre arrive en force, les petits commencent plus par le bédo. Un tel parle sur moi, je réglerai ça bientôt. Pour l'instant, faut que je pense à l'après. Dans ma tête, il y a plein de projets. Dernière ligne droite, je sais que j'étais le plus gros. Je suis presque au bout du tunnel. Et dans quelques mois, moi, je serai plus sous leur tutelle. Mais en même temps, je suis encore là, donc j'encaisse. Manger, se laver, pisser, dormir, chier, tout ça dans la même pièce. Voilà ce que c'est. Ma gueule, ceux qui te font croire autre chose, j'ai bien du mal à comprendre ce qu'ils veulent. Tous potentiellement incarcérables. Pour ma part, début 2003, une voix m'annonce libérable. C'est juste une page de mon destin, cousin, je glorifie rien. J'ai fait ma peine comme un bonhomme, parce que j'en suis un. Tellement de paltrins qui disent tellement de conneries devant les petits, qui leur font croire que c'est en allant au star qu'on réussit. On peut pas reprocher au monde d'être influençable. À part ça, tu bluffes personne, les gens influençables. En tout cas, si t'y as jamais mis les pieds, t'as rien raté. Pour ma part, j'en sors et j'en ai aucune honte ni fierté. Juste une page de mon destin, cousin, je glorifie rien. J'ai fait ma peine comme un bonhomme, parce que j'en suis un. Tellement de paltrins qui disent tellement de conneries devant les petits, qui leur font croire que c'est en allant au star qu'on réussit. On peut pas reprocher au monde d'être influençable. À part ça, tu bluffes personne, les gens influençables. En tout cas, si t'y as jamais mis les pieds, t'as rien raté. Pour ma part, j'en sors et j'en ai aucune honte ni fierté. À tous ceux qui savent de quoi je parle, à tous les frères que j'ai croisés quand j'étais extrait dans la cage du fourgon cellulaire, air vicié, envie de gerber, menotté dans le dos du trajet, menotté aux chevilles du trajet. Si tu connais rien de ça, t'en fais pas, tu rates rien, mon cousin James P.
Vous êtes toujours à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Et donc là, on vient de parler des prisons pour sans-papiers, de la mort de Chaka Ouattara en Italie et de comment tout système peut pousser à bout et ramener des morts, comme on dit souvent à cette antenne. Et on voudrait revenir un peu, comme on l'avait annoncé dans le fil de l'émission, sur l'infâme. L'infâme, pour celles et ceux qui écoutent régulièrement L'Envolée ou qui l'ont écouté la semaine dernière, c'est un prisonnier longue peine, donc c'est quelqu'un à qui il reste beaucoup de temps à faire, au moins 10 ans, et qui est incarcéré depuis maintenant presque 20 ans. Il est rentré en prison pour la dernière fois, comme je disais la semaine dernière, un peu avant ses 18 ans, et depuis il est toujours enfermé, il est béton pour une première peine de 8 ans, et après à coup de peine interne, parce que... tout est fait à l'intérieur pour que tu craques, pour que tu t'énerves, etc. Ça monte, quoi. Et là, on voudrait commencer par vous passer un enregistrement de l'infâme où il avait appelé l'émission de L'Envolée le 19 septembre 2018 pour faire un appel à un rassemblement pendant un procès au civil qu'il avait. Et ce procès faisait suite à une prise de parole de sa part et avec quelqu'un d'autre à Réau. Réau, donc, c'est une prison dans le 7-7, lui il était au côté central, il y a des matons qui avaient quasiment buté à force de violence au mitard, et donc quelques jours ou quelques temps après, il y a l'infâme et un de ses co qui décident de réagir pour obtenir des transferts, pour obtenir des changements, et il raconte rapidement comment ça se passe, comment la paix réussit à les niquer en leur faisant croire que c'est bon, ils vont pouvoir toucher ce qu'ils veulent. Et c'est surtout, en fait, comme la semaine dernière, il revient sur tous ces moments où l'administration pénitentiaire te pousse à bout, puis te fait croire que peut-être que si tu te comportes bien pendant un temps, la situation va s'améliorer, et finalement te met un gros taquet dans la gueule, de manière à ce que tu craques, quoi. Et donc voilà, on va vous passer rapidement cet enregistrement, et on revient après.
Condamné à l'avance pour l'exemple, pour dire non à la connerie humaine, soutien à Karim au TGI de Melun, le mardi 13 novembre 2018 à 9h30, salle C. Venez nombreux et nombreuses. Certains de ceux et celles qui me connaissent m'appellent l'infâme, d'autres m'appellent Boubou, ou encore Papier. Pour d'autres, ceux qui ne me connaissent pas, c'est Karim. Mais pour les tribunaux, mon nom est synonyme de haine, de rage et de combat perpétuel. Ce sont les sentiments qui m'animent lorsqu'on me parle de la prison et des cons qui s'y trouvent, qu'ils soient surveillants ou détenus. Je vais passer devant le juge pour que l'on me fasse verser des dommages et intérêts que j'estime totalement indus. Ces dommages et intérêts me seront apparemment donnés pour un montant afin de faire de moi un exemple. À cela, je m'y refuse totalement sans me battre, même si sincèrement, je n'ai aucun doute sur le fait que je vais me faire allumer. Il m'a fallu faire une prise d'otage, ce qui a fait passer des heures pénibles aux agents impliqués, ce qui est malheureusement tout à fait logique et que je peux comprendre, car ne plus avoir de dignité en se faisant dessus juste parce que j'avais, selon lui, un regard belliqueux, qui sentait la mort. Donc selon le ressenti du surveillant au moment où, en pleurant, assis sur sa chaise, il nous a dit tout simplement « j'ai peur ». Mais comme on le dit chez moi, c'est pas une fois que t'as chié dans ton froc qu'il faut serrer les fesses, garçon. Des mois durant, j'ai subi des coups et blessures venant des surveillants et des chefs de Réau. Réau, la centrale pénitentiaire de Réau. J'en ai subi des violences, les insultes de ces mêmes agents, une lourde agression qui a eu lieu au quartier disciplinaire afin de me tuer et qui m'a provoqué un AVC, des missions punitives en service de nuit... et j'en passe. Je n'ai jamais prétendu être un ange, loin de là. J'aspire juste à un minimum de respect, des conditions de détention acceptables, vu que jamais de la vie, ni dans ce monde ni dans l'autre, nous n'aurons ne serait-ce qu'une fois en France une prison qui soit humainement viable. Faire mon temps et sortir le plus rapidement possible, voilà ce à quoi j'aspire. Mais à croire qu'à l'intérieur, il y a toujours et encore et toujours la pénitentiaire pour nous détruire la vie. J'ai décidé une nouvelle fois de dire non. J'ai besoin de votre soutien, à vous qui vous bougez pour moi, pour nous aider, nous détenus, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui, en entendant mon histoire, auraient envie de se mobiliser pour me soutenir. À toutes celles et ceux qui se sentent impliqués, je leur dis un grand merci à vous. Je ne suis pas un voyou, ni quelqu'un de très connu du milieu, ou encore un caïd. Je suis juste un jeune trou du cul de 35 ans, respectueux et calme, si tant est qu'on m'apporte le minimum de respect qu'un être humain doit avoir, ou plutôt a le devoir d'avoir de plein droit. Et je suis aussi ce genre de mec qui n'aime pas qu'on le fasse chier, qu'on le malmène gratuitement, sur lequel on peut se défouler en toute impunité. Et pour rétablir la balance, à hauteur de combien ils me punissent, ou pour protéger ma vie, celle de ma famille, de mes amis, de ma femme, que tout le monde sache, qu'ils soient surveillants, détenus, directeurs de prison ou toute autre personne liée à cette catégorie de gens, que je serai, même si je devais être seul contre tous, celui qui sera toujours là pour leur faire barrière, tout le temps que j'en aurai la force, que ce soit intelligemment ou alors par des actions violentes, puisque malheureusement je n'ai pas le choix. Je l'ai dit et toujours dit, c'est nous contre eux, Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous viendrez tous nombreux et merci à toutes celles et ceux qui font s'élever ma voix. Rendez-vous le 13 novembre 2018 pour faire la guerre, cette fois-ci avec le cerveau et non pas avec les bras. Venez comme soutien, merci à vous tous.
C'est plutôt bien résumé.
Bah ouais, de fait, hein, c'est toi qui l'as écrit, du coup.
C'est clair.
Bah du coup, peut-être tu veux un peu préciser le contexte du procès ?
Ouais, tout à fait. Alors, avant tout, bon, jusqu'au jour d'aujourd'hui...
On a un quart d'heure, après c'est fini, alors t'as un quart d'heure. Non mais sérieux, excuse-nous parce qu'on a pris un peu de temps, c'est de ma faute en fait.
T'inquiète, y'a pas de souci. Donc, tous ceux qui peuvent m'entendre, les auditeurs, les auditrices, etc., vous connaissez tous sous le nom de la femme. Donc, le fait que je vais passer au tribunal... Obligatoirement, on va savoir mon nom, je le dirai qu'une fois à la radio. Tous ceux qui ne me connaissent pas, mon blase, c'est Boaza Karima. Donc, avis à la pénitentiaire, je vous emmerde tous, et moi, j'assume d'avoir un téléphone et garder tous la pêche. Quoi qu'il en soit, donc le 30 novembre 2016, j'ai été obligé, avec deux autres collègues, de faire une prise d'otage. Une prise d'otage qui a été violente pour un des surveillants, puisque, comme je le dis dans le communiqué, on a essayé de me tuer dans le mitard, pendant la période des fêtes, c'est-à-dire au mois de décembre qui précédait ça. Donc moi, je me suis battu pendant quasiment 40 minutes avec les surveillants, ils ont essayé de me tuer. Malheureusement, ils n'y sont pas arrivés, ça craint l'AVC. Le jour où on a fait la prise d'otage, ce surveillant s'est retrouvé dans l'étage. Alors, à la base, il devait se retrouver otage avec nous. Sauf que la colère m'est montée et je l'ai massacré, comme c'est pas permis. Donc je lui ai filé la dose. Et donc son autre collègue qui était avec lui sur l'étage, lui on l'a pris comme otage. On a eu la prise d'otage pendant à peu près 3 heures, 3 heures et demie. Bon, c'est pas grand chose, hein. Mais voilà, c'est simplement le fait qu'on a eu, entre guillemets, accès à ce qu'on demandait verbalement. Mais au final, on s'est fait niquer de A à Z. Et donc j'ai été condamné pour la prise d'otage à 5 ans d'emprisonnement. Le truc, c'est qu'il y avait des vices de procédure en ce qui concerne les dommages à intérêt que mon avocate avait relevé lors du passage en correctionnel. Et ces dames et messieurs les juges, quand je suis passé à Melun, ils se sont dit quoi ? Ils se sont dit, bon, puisqu'il y a des vices de procédure dans les dommages à intérêt, on va dire que nous, on n'est pas compétents pour statuer. On va renvoyer ça au civil. Comme ça, les surveillants pourront refaire les dossiers de demande de dommages à intérêt. Comme ça, ils seront viables et voilà, il n'y aura pas de vice de procédure et on pourra donner accès à ce qu'ils demandent. Et bien plus tard aussi, j'ai contacté mon avocate et elle m'a dit très clairement, un truc comme vous avez fait là-bas, à part ce qui s'est passé dernièrement avec Redon, etc., parce que bon, c'est bien après, hein. Elle m'a dit, vous êtes les premiers à avoir fait ça. J'ai déjà eu des prises d'otages, des petits machins, mais avec autant de violence et aussi rapidement que vous ayez pu aussi rapidement mener à bien la prise d'otage, surtout toi qui a massacré le surveillant, tu vas manger les dommages à intérêt, mais parce qu'ils veulent faire un exemple et ils vont faire un exemple. Donc, de par rapport à tout ça, moi j'estime que les brimades, les insultes, comment on s'est fait malmener, le fait qu'on qu'on nous considère comme des chiens. Je rappelle que Réo, là-bas, c'est un mouroir. C'est un mouroir. On meurt à petit feu. Ils prennent les gens pour des cons de A à Z, il n'y a pas de réinsertion. Le travail est quasiment inexistant. Alors quand il existe, c'est bien payé pour tout ce qui est. Et là encore, je vous dis, ça n'implique que ma propre personne, mais c'est ce que j'ai constaté. Tous ceux qui balancent, qui ont des statuts de violeurs, de balance, etc., eux, on leur donne des bonnes places qui sont bien payées. Par contre, les gens comme moi, on les file aux ateliers payés 2 euros et quelques de l'heure. Alors, quand il n'y a pas du travail tout le mois, on se retrouve à la fin du mois avec une paye qui fait 15-20 euros. Donc, c'est pour éviter aussi, eux, dans l'ensemble, de nous donner de l'indigence en plus de ce qu'on pourrait payer. Donc, je pense que toutes ces choses-là, accompagnées des insultes, des menaces, des arrangements entre surveillants, chefs et détenus pour essayer de créer des problèmes pour qu'ensuite il y ait des punitions, que ce soit d'isolement, de mitard ou de peine supplémentaire. Tout ça, nous, on s'est insurgé, moi et mes deux collègues, on s'est insurgé contre ça. Surtout qu'on était directement visés. Et pas qu'une fois, ça a été sur long terme. Moi, j'étais dans une optique de réinsertion. Alors, j'avais tout ce qu'il fallait pour sortir. On m'a dit non, tu sors pas. Et en plus de me dire non, tu sors pas, On me fait enculerie sur enculerie pour que je bouge. J'ai tenu tout le temps que j'ai pu, sans violence, sans insulte, sans menace. On a essayé de négocier verbalement avec la pénitentiaire. On a essayé d'être dans les clous, comme on dit. Malheureusement, ils sont restés sourds à ça parce que eux, dans leur optique, il fallait que ça pète. Ils sont pas contents quand tout va bien. Donc voilà, jusqu'au jour où ils ont essayé de me tuer, et là, je me suis dit non, là, c'est plus viable, c'est plus possible. Donc voilà, on a pris nos responsabilités. Donc à partir de là, voilà, on a fait ce qu'on avait à faire.
Donc voilà, là, on vient d'écouter un enregistrement de l'infâme qui date déjà d'il y a presque, enfin, plus de 2 ans. Et bah déjà, ça fait plaisir de réentendre sa voix à l'antenne. Ça fait un peu chelou, mais ça fait plaisir. On voulait continuer à lui passer beaucoup de force. Comme on disait la semaine dernière, l'administration pénitentiaire a continué en fait de se foutre de sa gueule. Il était à Lannemezan depuis assez longtemps. Il lui a fait miroiter un transfert à Poissy qui finalement il s'est pris un transfert disciplinaire et il a fini à Vendin-le-Vieil, qui est une des prisons les plus sécuritaires et donc les plus dures à vivre. Et depuis qu'il est à Vendin, les matons du coin ont décidé d'essayer de le briser encore plus que ce qu'ils avaient pu essayer de faire avant, à fois avec des séries imaginaires, des violences, des agressions, des enfin 54 jours de quartier disciplinaire dans sa cellule qui avait été mis en place, puis finalement qui ont été réduits à 14. Enfin voilà, plein de prétoires qui s'enchaînent et donc impossibilité pour lui d'essayer de juste de prendre quelques repères et d'attendre de pouvoir se casser de là-bas, quoi.
Ouais, et puis un des trucs qu'on disait et que lui racontait vachement bien dans son texte qu'on a lu la semaine dernière, c'est qu'effectivement, malheureusement, il montre bien comment on crée des peines, des prisonniers à vie, comment c'est pas la prison, elle est pas là pour enfermer des gens qui seraient dangereux à l'extérieur. La prison, elle crée des gens, c'est ce qu'on dit à chaque fois, ces prisons, Condé, Vendin, elles sont là pour créer produire des prisonniers qui vont être considérés comme dangereux et qui après, du coup, vont être insortables, vont être non libérables. Et c'est vraiment ça, l'infâme, on voit bien. Il considère que, de toute façon, il ne doit pas sortir et que au moment où il essaye, lui, de s'arranger, d'arranger sa sortie, d'arranger ses conditions, et ben là, ils vont lui mettre la pression. Ils vont lui mettre la pression jusqu'à ce qu'il craque, jusqu'à ce qu'il soit poussé à bout et que ce soit vis-à-vis d'autres détenus contre lui-même ou contre des surveillants, pour le pousser à la faute et lui recoller une peine interne. Et donc voilà, continuer à empiler des peines qui font que il voit sa date de sortie toujours repoussée, ses possibilités de condit toujours annulées.
Ouais, et on rappelle, puisqu'on est le 24 décembre, mais que le 24 décembre 2020, l'infâme, il était en bonne santé physique et morale, en tout cas autant que c'était possible à Vendin et malgré les violences. Et que du coup, c'est quelqu'un qui a de la force et qu'il n'est pas question, en tout cas, s'il devait se passer quoi que ce soit pour l'infâme, ce serait bien évidemment l'administration pénitentiaire, plus particulièrement la direction de Vendin et les matons de là-bas qui en seraient tenus pour responsables. Et moi, je voulais juste redire un petit truc sur lui, c'est que à la fois, il y a ce truc de créer des peines qui permettent de justifier en fait des prisons de plus en plus sécuritaires, parce que c'est Sabri qui en parlait il y a un peu plus d'un an dans les émissions de L'Envolée. À Condé et à Vendin, les matons, ils ont intérêt à pousser à bout pour justifier leur équipement, pour justifier tout la surveillance qui est mise en place autour des prisonniers là-bas. Et donc, en fait, c'est à la fois un besoin de la part de ces prisons de créer de mettre des prisonniers des peines infinies, et en même temps, après, l'administration pénitentiaire, elle se retrouve face à des gens qui ont plus du tout rien à perdre parce qu'ils savent qu'en fait ils ont des peines qui peuvent aller jusqu'à au-delà de leur espérance de vie, quoi. Bon, ce qui n'est pas le cas pour l'infâme, on espère qu'il pourra sortir le plus vite possible pour profiter quand même un peu de dehors, mais que il y a quand même ce truc là de, à un moment, ils se retrouvent face à des gars ou à des meufs qui en fait n'ont plus rien à perdre. Et eux, ils vont profiter de ça pour justifier une surenchère encore plus vénère de leur part et continuer à fracasser ces gens-là, quoi. Et du coup, on voulait aussi, peut-être juste en profiter pour dire que là-bas, les matons, ils sont suréquipés, surarmés, qu'il y a beaucoup, beaucoup de violence de la part des matons et que c'est un peu ce que tu disais, Arthur. Une des seules manières de se faire transférer de Condé ou de Vendin, c'est de prendre un autre transfert disciplinaire. Et prendre un autre transfert disciplinaire, c'est aussi souvent prendre une autre peine de prison en plus, quoi. Et donc, en fait, tu peux pas ressortir normalement, entre guillemets, de ces prisons. Condé, c'est Sylvia qui le rappelait il y a 2 semaines. En fait, quand ça a été créé, ça devait être une prison où les prisonniers ne devaient pas être affectés plus de 6-9 mois, quoi. Et qu'il y a des gens qui sont quasiment depuis l'ouverture, donc quasiment depuis 7 ans, qui ont fait des peines hyper longues dans un endroit qui est fait juste pour briser les gens, où il n'y a aucune possibilité de s'organiser, très très peu de choses à l'intérieur, et où les seuls
espace collectif et endroit, enfin moment de respiration, ils ont été gagnés à coup de longues luttes très dures et très réprimées par les prisonniers à l'intérieur.
Et ouais, enfin un des trucs sur, enfin moi je trouve, enfin que là vraiment on arrive à bien voir avec tout ça, c'est que c'est vraiment un système en fait. Enfin c'est comme ça que fonctionne la paix, cette façon de gérer des prisonniers qui ont des longues peines, de les pousser à bout à certains moments. On voit bien en fait que c'est, on parle là de ces prisons hyper trash, mais en fait ce qu'il raconte dans l'enregistrement Areo, c'est exactement la même chose. Et ce qu'il racontait dans le texte de la semaine dernière dans Encore une autre prison, c'est exactement la même chose. Et en fait d'autres prisonniers nous racontent malheureusement tout le temps les mêmes histoires où en fait t'as la paix qui sabote la sortie des prisonniers ou des prisonnières, et donc c'est vraiment voilà un système carcéral qui fonctionne, qui est organisé pour ça, pour éviter, pour empêcher les gens de sortir, pour les voilà les garder entre quatre murs.
Ouais, et du coup on continuera de donner des nouvelles de l'infâme. On rappelle que s'il y a des personnes à l'extérieur ou dans d'autres prisons qui souhaiteraient écrire à l'infâme, lui apporter sa solidarité, et bah, il suffit de nous contacter, on vous enverra les numéros d'écrou ou on lui transmettra l'adresse, que c'est important à la fois pour lui donner de la patate, mais aussi pour que l'administration pénitentiaire se rende bien compte qu'il n'est pas tout seul face à eux et qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et donc on continuera de donner des nouvelles en janvier, et on lui souhaite beaucoup beaucoup de force. On ne sait pas si tu pourras écouter, mais en tout cas on pense à Watt, et on pense aussi à tes proches qui te soutiennent encore, à celles et ceux qui te soutiennent encore, et pour qui c'est aussi la galère quoi. On va devoir terminer là un peu parce que l'émission va se terminer, il est bientôt 20h30, et on voulait quand même passer pas mal de petites dédicaces, de coucou pour cette fin d'année. On va commencer par...
Je vais donner des petits coucous de la part de Serge qui donc n'est pas avec nous. Le premier, bah, c'est pour Serge. Voilà, un gros coucou à toi et courage voilà, pour cette fin d'année. Et aussi un gros coucou à toutes les prisonnières et prisonniers qui ont été en contact avec nous, qui ont échangé avec nous pendant le premier confinement. Voilà, beaucoup de force à vous.
Et il passe aussi un gros big up à Erwan. Voilà, beaucoup de force. J'imagine que c'est quand même particulièrement chaud pour toi. Il y a K qui voulait dire à Adat, garde la pêche, la sortie c'est sûr. Pour l'infâme, le terminus se terminera, tu sais. Force, courage et déterre. Mickaël, lâche rien, j'ai bien reçu ta dernière lettre et je te réponds vite. Francis, on est ensemble, t'as la rage au ventre et c'est ça qui est bon. Tu fais pas comme les arbres, tu te laisses pas abattre. Bilal, une pensée amicale et à toutes les personnes enfermées, hommes ou femmes, dans les cachots de la République, maison d'arrêt, centre de détention, HP, centre de rétention. Et surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de force à tous les proches, les familles, les enfants enfermés dehors avec eux, quoi. Et moi, je voulais en profiter avec Joël, on voulait passer un gros big up à Fabrice. On sait que les anniversaires en tôle, c'est particulièrement dur, que pour toi, les fêtes, c'est particulièrement long et dur. Et du coup, on voulait te renvoyer beaucoup, beaucoup de force. Aussi, beaucoup de soutien à Yuri, à Saint-Maur, qui prend particulièrement cher. L'infâme, on pense à Watt. Et au poteau qui s'est fait récemment transférer à Liancourt. Et bah, force, mon pote, on te lâchera pas. Et il y a les nouvelles qui arrivent bientôt.
Et du coup, rediffusion comme d'habitude le mercredi matin à 8h30. Aussi un gros beaucoup de force et de courage aux meufs de la MAF des Baumettes dont on a parlé la semaine dernière et qui prennent très cher en ce moment, mais qui se laissent pas faire non plus. Alors pour continuer un peu avec les coucous, il y a Pierrot, toute l'équipe et tous les amis de Philippe Lalouel qui lui souhaite à lui, à Monique, à la Marion retrouvée ainsi qu'à son petit bonhomme le plus bonnet Noël de leur vie. Avant celui, bien sûr, où on se prendra toutes et tous dans les bras et surtout dehors. Ça y est, on a envie d'y croire, on lâche rien. Et plus généralement, l'équipe est ravie de tourner la page de cette année 2020 de merde, qui a vu des milliers d'entre vous enfermés plus que jamais et coupés des vôtres. Mais vous avez tenu, combattu, et on a relayé ici pas mal de paroles et d'actes de résistance. Et on continuera à faire ça ensemble. Cette année était aussi une année de merde parce qu'elle a vu partir l'un des nôtres pour un dernier voyage en hélico. Olivier, Zé, un ami, un frère pour beaucoup dans cette équipe et pour beaucoup à l'intérieur des prisons centrales. Il n'est pas tout près, mais il n'est pas tout loin, comme il disait, et il nous a laissé un message qu'on a mis en couverture du dernier numéro. Portez-vous bien, tenez-vous mal, voilà notre programme pour 2021.
Voilà, et on souhaite du coup beaucoup de patates à tous celles et ceux qui sont enfermés, à leurs proches, et comme on le dit toutes les semaines, il n'y a pas d'arrangement, et à vendredi prochain.
because it does.